Avant la prière, lisons de Luc 2. Lisons l'histoire bien connue. Luc, chapitre 2, du verset 8. Or, il y avait dans cette même région des bergers en pleine campagne qui, cette nuit-là, veillaient sur leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici la marque de reconnaissance pour vous. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de morceaux d'étoffe de laine et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous avons souvent parlé des choses surnaturelles qui se produisent dans le royaume de Dieu. La naissance de notre Seigneur était un événement surnaturel. Marie dit, « Je ne connais pas d'homme. » Et la réponse est la suivante. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut. Et nous voyons qu'ici, lors de l'annonce, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Les bergers étaient des hommes naturels. Le troupeau était un troupeau naturel. Mais la lumière qui descendait du ciel, qui les enveloppait et les éclairait, était une lumière divine, une lumière céleste. L'annonce était une annonce divine, une annonce céleste. Car aujourd'hui, dans la ville de David, le Christ, le Seigneur, vous est né. Nous apprenons ainsi que Dieu fait des choses surnaturelles sur cette terre. Et nous croyons qu'il est le même aujourd'hui encore et qu'il peut faire et fera des choses surnaturelles par grâce. Nous lisons ici, tout à coup, il y eut le verset 13, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. L'ange a fait l'annonce, mais toute l'armée céleste s'est jointe au chant de louange. Et au verset 14, il est donc dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. Il y a des personnes sur terre sur lesquelles repose le bon plaisir de Dieu. Il s'agit des personnes que Dieu a choisies en Christ, a élues en Christ avant la fondation du monde et qu'il a destinées à contempler sa gloire. Lorsque notre Seigneur a été baptisé et aussi sur la montagne de la Transfiguration, il a été dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. » C'est lui que vous devez écouter. Tous les fils et toutes les filles de Dieu sont en Christ. Et c'est en Christ que le bon plaisir de Dieu se repose sur toi et sur moi. Non pas à cause de toi et de moi, mais à cause de lui qui est digne, qui était digne et qui est descendu pour prendre notre place. C'est toujours un message glorieux, un message de joie, un message de libération. Car il vous est né aujourd'hui le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, dans la ville de David. Le verset 11, « Il est venu nous racheter. » Nous l'avons ainsi chanté et nous avons accepté cette rédemption divine en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puisse le Dieu Tout-Puissant agir de manière surnaturelle dans ta vie et dans la mienne en ce jour au cours de ce service divin. Puisse-t-il nous être donné de voir le surnaturel, de voir le divin et que notre foi soit orientée de telle sorte que nous soyons soulevés de notre propre emprisonnement, de notre propre captivité, de notre propre emprisonnement, afin de rencontrer Dieu en esprit et de pouvoir l'adorer en esprit et dans la vérité. Les bergers étaient des gens ordinaires et pourtant le Seigneur s'est révélé à eux de manière surnaturelle. Nous n'avons rien de spécial, nous sommes des gens ordinaires, mais nous pouvons le dire par grâce. Le Seigneur s'est révélé à nous de manière surnaturelle. Toute parole de Dieu est une parole surnaturelle. Toute révélation de la parole et de l'Esprit de Dieu est surnaturelle. Nous devons comprendre une fois pour toutes ce que Dieu a réellement fait en nous tous et en chacun de nous par grâce. Ensemble, déposons-lui ce service, remettons-lui ce service divin de clôture de cette année dans la foi et demandons-lui de nous regarder encore une fois en grâce et de nous bénir de la richesse de sa grâce. Levons-nous pour cela. Père céleste, je te remercie de tout cœur de ce que ce n'est pas seulement un récit ou une histoire, mais une réalité divine. L'accomplissement du plan de ton salut que tu as conçu pour l'humanité. Seigneur bien-aimé, je suis profondément reconnaissant de ce que nous sommes inclus dans ce que tu as fait. Dans ce que tu as fait, dans ce que tu fais maintenant et continueras à faire. Prends-nous aujourd'hui. Que les cieux soient ouverts au-dessus de nous et que la gloire de Dieu nous enveloppe. Parle-nous toi-même par ta parole et agis par ton Saint-Esprit. Seigneur bien-aimé, nous plaçons cette réunion sous la couverture du sang de l'agneau. Toi, tout droit de Satan, a été perdu sur tous ceux que tu as rachetés et libérés. Il doit en prendre note. Satan, enlève tes mains sales de tout enfant de Dieu racheté par le sang et lavé. Retire-toi, sors et quitte cette salle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur fidèle, reçois-nous, bénis-nous et guide-nous par ton Esprit Saint. Que tous les autres esprits soient bannis et chassés et que ton Saint-Esprit agisse au milieu de nous d'une manière particulière. Seigneur, je te prie d'avoir quelque chose pour chacun, pour les perdus, afin qu'ils soient sauvés, pour ceux qui sont liés, afin qu'ils soient libérés, pour les malades, afin qu'ils soient guéris, pour les affligés, afin qu'ils reçoivent du réconfort, pour ceux qui sont abattus, afin qu'ils soient relevés. Seigneur fidèle, bénis-nous de la richesse de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je ne m'attendais pas à une si bonne visite aujourd'hui. Je pensais que les Suisses étaient dans les belles montagnes, mais vous avez préféré être ici et que Dieu vous le rende. Je le pense de tout mon cœur. Nous savons tous que humainement, nous aurions bien sûr d'autres objectifs et que nous aurions aussi planifié le temps différemment. Mais Dieu a mis en nous quelque chose que personne ne peut enlever. Et je crois l'avoir dit hier soir, si l'on retirait le divin de notre vie, que nous resterait-il? Soyez tout à fait honnête. Quel serait le contenu de notre vie si l'on enlevait le divin, ce qui y a d'éternel de notre vie? Elle serait vide. Elle n'aurait plus de sens ni de valeur. Donc, ce qui a de la valeur dans notre vie, c'est le divin. Tout le reste va et vient et devra un jour rester derrière. Mais ce que Dieu nous a donné, bien alors restez ici. Mais ce que Dieu nous a donné, nous l'emporterons avec nous dans la gloire. Vous l'avez certainement appris dimanche dernier et dans la prédication, tout devient très, très sérieux. Et nos yeux doivent être oints spirituellement avec de l'onction pour les yeux afin de pouvoir discerner toutes choses correctement. Humainement, nous porterions un tout autre jugement sur certains points. Je pense ici à ce dignitaire qui, en effet, a effectué en son temps la visite en Inde et qui a laissé passer sur ses lèvres cette déclaration que le Christ se trouve dans chaque religion. Et vous savez, quand on va dans un pays qui appartient à 95% à l'hindouisme, 95% à l'hindouisme, une telle personne donc doit bien créer un lien d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'ai lu cela dans le journal, j'ai bien sûr eu comme un malaise et j'ai simplement dû dire, le Christ ne se trouve dans aucune religion. Il a dit dans toutes. Donc, j'ai dit dans aucune. Et vous savez quoi? Je dis même pas dans la religion chrétienne. Car c'est une chose morte. Le Christ est vivant. Et il est vivant dans ton cœur et dans le mien. Il n'est dans aucune religion, même pas dans la religion chrétienne. Il est dans le cœur, dans la religion dite chrétienne. Il est dans le cœur des croyants, où il a fait sa demeure pour se manifester. Mais d'un point de vue terrestre, les gens sont bien sûr impressionnés lorsqu'ils voient quelqu'un entièrement vêtu de blanc, avec un bâton à la main, comme un sceptre. Et quand il dit de telles choses, cela leur fait tellement plaisir. Mais les enfants de Dieu ont des sens exercés. Ils discernent. Ils n'ont rien contre un homme, mais ils savent qu'un tel homme envoie les gens trompés dans l'éternité. Et je préfère perdre ici tout ce que j'ai à perdre et revoir devant Dieu les gens à qui j'ai prêché la parole. Et c'est là que j'ai pensé, un dignitaire a déjà la vie très dure. Moi, en revanche, c'est beaucoup plus facile. On m'a même retiré la dernière dignité d'un être humain. Je n'ai donc plus rien à perdre, mais je peux donner tout l'honneur et toute l'adoration au Seigneur. Je peux vous dire une chose. Satan est très, très méchant, est très, très en colère. Il veut à tout prix empêcher la cause de Dieu d'avancer, l'œuvre de Dieu d'avancer. Et je l'ai particulièrement ressenti ici, il y a 14 jours, ce qui n'était jamais arrivé dans ma vie et que j'aurais considéré comme impossible. Est arrivé. Je m'étais entièrement préparé à partir pour Palermo. J'avais bien préparé mon billet, mon bon d'hôtel, mon portefeuille, mon argent, tout ce que l'on peut avoir. Et je suis allé au service divin ce samedi soir. Et quand je suis revenu après le service, tout était cassé. Le cadre de la porte arraché et en principe tout avait été emporté. Je n'ai plus de carte d'identité, plus de permis de conduire, je n'ai plus rien du tout. Et je me suis dit en moi-même, ah Seigneur, est-ce que c'est la dernière farce que je dois subir, qu'on me retire le droit de conduire, le droit de m'identifier encore, que je n'ai absolument plus le droit d'exister en fait sur terre. Et là, je me suis senti bien dans le cœur. Et je me suis dit, mon maître a eu un sort bien pire encore. Et j'ai commencé à remercier, à rendre grâce. Sur cette base, le Seigneur a donné, il a permis qu'on le prenne, loué soit le nom du Seigneur. Mais il faut, je crois, surtout quand on a une tâche et une responsabilité, on doit emprunter des chemins divers et vivre des choses pour pouvoir ensuite compatir avec les autres, porter avec eux. Aujourd'hui, je peux dire à chacun, ton problème est mon problème. Tu n'as plus besoin de me dire grand chose. Je sais déjà ce que tu veux dire. Je veux juste t'aider avec l'aide de Dieu. Nous en sommes donc convaincus. Dieu est en train d'achever son œuvre. Et il se peut que le temps soit plus court que nous ne le pensons. Et que l'ennemi se déchaîne beaucoup, beaucoup. Pour cette raison, c'est compréhensible. Mais nous n'abandonnons pas. Toutes les choses servent à notre bien et nous rapprochent du Seigneur. Donc, Je ne souhaite pas de pitié de votre part. Ce n'est pas pour cela que je l'ai dit. Merci au Seigneur de prendre de tels chemins avec les siens, à partir desquels nous pouvons reconnaître que sa grâce est avec nous. Si Dieu n'avait rien prévu dans notre vie, il n'y aurait aucune trace de Satan. Mais parce qu'il a un projet avec notre vie, toutes ces choses doivent arriver. Pensez donc à tous les hommes de Dieu. Quand Moïse est né, que s'est-il passé? On a tué les enfants d'Israël ou les enfants israélites. Moïse a dû être abandonné pour être préservé. Pensez à Joseph, au chemin difficile qu'il a dû parcourir. Jeté dans la fosse par ses frères, déclaré mort, et son père, pourtant prophète, qui avait mis ses mains en croix pour bénir. Qu'est-ce que c'était? Où était ce Isaac? Dans tous les cas, Joseph a dû emprunter des chemins difficiles. Et savez-vous ce qu'il a dit plus tard? Ne vous inquiétez pas. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous garder en vie. Qu'est-ce que c'était? Il aurait pu dire, frère, vous m'avez pourtant fait des choses terribles. Vous m'avez fait souffrir. Puis vous m'avez jeté dans la fosse. Dans la fosse. Maintenant, je vais vous régler votre compte. Pas de règlement de compte. Il dit, ne pleurez pas. Dieu m'a envoyé devant vous. Venez maintenant avec moi. Vous serez tous gardés en vie. Nous le voyons aussi avec notre Seigneur et Sauveur. Quand il est venu sur cette terre, que s'est-il passé? Jamais auparavant, on n'avait tué autant d'enfants. Il ne s'agissait pas de tant d'enfants, mais de ce seul enfant, de ce Sauveur du monde. Mais à cause de ce seul enfant, tant d'enfants devaient mourir. Et que s'est-il passé? Le Seigneur parla à Joseph en songe et lui dit, « Prends Marie et l'enfant et fuis en Égypte. » Pour quelle raison? Pour que s'accomplisse ce qui est écrit dans le prophète Osée au chapitre 11, au premier verset d'Égypte, « J'ai appelé mon fils. » Et cela devait être accompli. Un cri sur la montagne de Juda. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée. Tout était l'accomplissement de l'Écriture. Tout était accomplissement de l'Écriture. Maintenant, nous dirions, Dieu n'aurait-il pas pu choisir une voie plus facile? N'aurait-il pas pu diriger le cœur de tous ces gens pour qu'il n'y ait pas de souffrance? Nous ne pouvons pas penser ainsi. Sinon, nous pourrions remonter jusqu'au jardin d'Éden et demander pourquoi Dieu a-t-il même permis que la séduction vienne? Pourquoi Dieu a-t-il permis que Caïn tue Abel? Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Un jour, nous verrons et reconnaîtrons que tout cela était inclus dans le conseil de salut de notre Dieu. Nous ne souhaitons pas un chemin sur des roses. Le chemin de la gloire est escarpé et souvent épineux. Ce n'est pas un chemin facile, mais il débouche auprès de Dieu dans la gloire. Et si nous pouvons alors entrer aux portes des perles, alors tout. Aux portes de perles, alors tout en aura voulu la peine. Examinons maintenant très brièvement quelques passages de l'Écriture. Tout d'abord, le psaume 68. Psaume 68, depuis le début. Donc, du verset 2. Dieu se lève, alors ses ennemis sont détruits, et ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Verset 3. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond devant le feu, ainsi périssent les hommes sans Dieu. devant la face de Dieu. Verset 4. Mais les justes se réjouissent. Ils poussent des cris de joie devant la face de Dieu. Ils sont dans l'allégresse, pleins de joie. Verset 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Faites place à celui qui marche dans les déserts. Seigneur est son nom. Et poussez des cris de joie devant sa face. Le verset 6. Dieu est le père des orphelins, le juge des veuves dans sa sainte demeure. Dieu aide les déshérités à se loger et fait sortir les captifs pour qu'ils soient heureux. Mais ceux qui résistent habitent la terre aride. Verset 8. Quand tu sortis, ô Dieu, à la tête de ton peuple et que tu marchas dans le désert. Verset 9. La terre a tremblé. Les cieux ont tremblé devant la face de Dieu. Le Sinaï devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël. Le verset 10. Tu as fait pleuvoir en abondance, ô Dieu, ton peuple qui t'appartenait. Chaque fois qu'il était fatigué, tu l'as rétabli. Verset 11. Ton troupeau y a trouvé une demeure. Par ta bonté, ô Dieu, tu as rétabli les faibles. Verset 12. Le Tout-Puissant a fait retentir le cri de victoire. Les messagères de victoire étaient une grande foule. Peut-être jusqu'ici, le verset 12, il y a quelques versets qui pourraient être mis en évidence. Dieu a précédé son peuple qu'il a fait sortir. Et nous en viendrons tout à l'heure, puisque nous aurons le souper. Nous en viendrons à la sortie du peuple d'Israël. Mais je voudrais lire dans le prophète Osée une parole qui m'a particulièrement touché le cœur ces derniers jours. Lorsqu'elle a été lue, Osée, chapitre 2, verset 21. Et je te fiancerai à moi pour l'éternité. Oui, je te fiancerai à moi sur la base de la justice et du droit, dans l'amour et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu apprendras à me connaître, moi, le Seigneur. Et puis, en ce jour-là, je serai favorable, dit le Seigneur. Je serai favorable au ciel. Et le ciel sera favorable à la terre. Et la terre sera favorable au blé, au mou et à l'huile. Jusqu'ici, cette parole précieuse est d'un grand prix. Ici, le Seigneur parle de fiançailles. Et là où il y a des fiançailles, il y a une épouse. Et là où il y a une épouse, il y a un époux. Et Jean l'a d'ailleurs dit très clairement. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux entend le cri de joie de l'épouse. Et il dit, cette joie qui est la mienne est maintenant devenue parfaite. Ici, le Seigneur parle de fiançailles. Je me fiancerai à toi dans la justice, dans la fidélité. Je me fiancerai à toi. Ensuite, il y a les mots. Et puis, en ce jour-là, c'est-à-dire le jour où le Seigneur rachètera son épouse, quand il la sortira et se fiancera avec elle. Vous savez que nous attendons le repas de noces. Les noces de l'agneau n'ont pas encore eu lieu, mais elles auront bientôt lieu. Et c'est à l'épouse que le Seigneur s'est fiancé. Et il dit ici, en ce jour-là, le verset 23, Osée 2, « Je serai favorable. » Cela signifie alors, « Je serai favorable, alors je ne ferai plus régner la loi, mais la grâce. » Et il est dit, « Alors, j'exaucerai les cieux, et les cieux exauceront la terre, et la terre exaucera le blé, le vin et l'huile. » Le verset 24, traduction Luther. Que signifient ces paroles? Ces paroles signifient ce que Dieu a décidé dans le ciel deviendrait une réalité sur la terre avec le rachat, par la rédemption sur la croix à Golgotha. Cela deviendra une réalité sur terre, ce que Dieu a décidé au ciel. Avant cela, n'était pas possible parce que le cœur de l'homme ne pouvait pas recevoir la parole de Dieu. À Golgotha, le début, le commencement a été fait. Et le Seigneur s'est engagé avec nous dans la justice et la fidélité. Il s'est fiancé avec nous dans la justice et la fidélité. Depuis ce temps-là, le ciel est ouvert. Et il dit, je serai favorable au ciel. J'exaucerai le ciel. Tout ce que Dieu avait décidé dans le ciel qui devait se produire sur la terre pouvait ainsi devenir réalité au moment, pouvait se manifester à partir du moment où Christ est mort sur la croix du calvaire à Golgotha. Cela pouvait devenir une réalité. Cela pouvait apparaître. Moi, dit Dieu, je serai favorable au ciel et le ciel sera favorable à la terre et la terre sera favorable au blé. Sans oublier, sera favorable au blé. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Lui, en tant que grain de blé, a été déposé dans le sol, est mort et est ressuscité et a produit beaucoup de fruits. Pour que vous compreniez bien cela, il est déjà question ici dans la parole prophétique du vin et de l'huile. N'avons-nous pas entendu ce que Dieu lui a révélé à ce sujet dans la révélation des sept sceaux par frère Branham? Ce que Dieu a révélé par frère Branham, il ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Ne les touche pas. Il ne faut pas faire du mal à la révélation divine de la parole et à l'onction du Saint-Esprit. Pour que vous sachiez que cela se réfère à l'Église des nations, je voudrais lire le dernier verset, le verset 25. Osée 2, verset 25. Je me les implanterai solidement dans le pays. Je témoignerai de l'amour à ceux qui ne sont pas aimés. Et je dirai à ceux qui ne sont pas mon peuple, tu es mon peuple. Et ils s'écrieront, tu es mon Dieu. Et c'est ici qu'a eu lieu l'union de Dieu avec l'humanité en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous savons que tous n'acceptent pas l'offre de grâce de Dieu, mais il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont reçu, il leur a accordé le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Le ciel est à la est favorable à la terre et la terre est favorable au blé et de tout ce qui y est planté par Dieu. Donc la terre est favorable à tout ce qui est planté par Dieu. Donc ici au blé, de sorte que nous ne sommes pas laissés sans rien, mais que nous pouvons recevoir une pleine bénédiction prévue par Dieu. Donc ceux qui n'étaient pas un peuple seront mon peuple et nous devrions nous exclamer, mon Dieu, tu es mon Dieu. Ainsi, si nous avons reconnu le Seigneur, c'est que nous avons été reconnus par lui. Si nous savons, et nous savons très bien qu'il nous a rachetés, appelés à sortir, qu'il nous a fait grâce et qu'il s'est fiancé avec nous dans la justice et la fidélité, non pas pour ce temps, mais pour l'éternité. Puisque nous sommes où avons été à l'époque de Noël et fleurons très brièvement la pensée de la prophétie biblique. Pour ce faire, je voudrais lire les trois actions de grâce que nous trouvons dans l'évangile de Luc. Je commence par le chapitre 1 de Luc au verset 45. Il s'agit ici de Marie. Nous le savons tous certainement. Verset 45, Luc 1. Ô béni soit celle, qui a cru, car la promesse que le Seigneur lui a faite s'accomplira. Verset 46, alors Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Verset 47, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Verset 48, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. Car voici que désormais, toutes les générations me diront béatifié. Parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Oui, son nom est saint. Verset 50, et sa miséricorde s'étend de génération en génération à ceux qui le craignent. Il, verset 51, il déploie sa puissance avec son bras. Il disperse ceux qui sont pleins d'orgueil dans les pensées de leur cœur. Verset 52, il renverse les puissants de leur trône et élève ceux qui sont rien. Le verset 53, il rassasie de bien les affamés et renvoie les riches à vide. Verset 54, il a pris soin d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de la miséricorde, comme il l'a promis à nos pères, verset 55, à Abraham et à sa postérité pour l'éternité. Jusqu'au verset 55. Lorsque autrefois, la prophétie biblique s'est alors réalisée avec Jésus-Christ, notre Seigneur, il s'agissait d'une prière inspirée par l'Esprit, d'une louange à notre Dieu en accord avec ce qui se passait autrefois. La pensée principale que je voudrais exprimer ici est la suivante. Notre action de grâce, notre reconnaissance à Dieu ne doit pas passer à côté de ce que Dieu fait en ce temps, mais doit inclure ce que Dieu fait maintenant. Et c'est à cela que l'on peut reconnaître les prières de ceux qui s'élèvent vers Dieu. Qu'ils prient, reconnaître s'ils prient de manière générale ou si leurs prières sont inspirées réellement par le Saint-Esprit conformément aux promesses de Dieu pour ce temps. Marie n'a pas prié n'importe quoi. Elle a prié conformément à ce que Dieu a fait par grâce à cette époque. Nos prières de remerciement doivent inclure ce que Dieu a promis pour cette période et ce qu'il accomplit. Permettez-moi de lire la deuxième prière tirée du chapitre 1 de Luc. Et ici, je commence avec le verset 64. Au même instant, sa bouche fut ouverte et le lien de sa langue fut dénoué. Il pouvait de nouveau parler et il glorifiait Dieu. Il s'agit ici de Zacharie. Zacharie ne pouvait pas saisir la promesse et devint muet. Mais à partir du moment où la promesse est devenue réalité et qu'il l'a vue de ses yeux, sa langue s'est déliée et il a commencé à louer le Seigneur, le Dieu des cieux. Plus précisément, il est dit du verset 67, et son père, Zacharie, fut rempli du Saint-Esprit et prononça les paroles prophétiques. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a regardé son peuple avec miséricorde et lui a fait une rédemption. Et lui a créé une rédemption, le verset 69. Et il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Verset 70. Car ainsi il l'a promis par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Il nous sauvera de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Pour faire miséricorde à nos Père et se souvenir de sa sainte alliance. Verset 72, maintenant 73, du serment qu'il a fait à Abraham, notre père, de nous délivrer de la main de nos ennemis et nous donner de le servir sans crainte. 75, dans la sainteté et la justice, sous ses yeux, tous les jours de notre vie. Ici, je fais une petite interruption. Remarquez maintenant la suite. Autrefois, la prière inspirée par l'Esprit produisait aussi ce qui se rapportait à Jean, qui était le précurseur de Jésus. Verset 76. Mais toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Vous voyez? Verset 76. Car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies. Verset 77. Pour procurer à son peuple la connaissance du salut qui lui sera accordé par le pardon de ses péchés. Verset 78. C'est ainsi que le veulent les entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79, pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort et pour guider nos pas dans le chemin de la paix. N'était-ce pas là une glorieuse action de grâce? Ce n'était pas seulement une prière en général. Les promesses bibliques étaient incluses dans cette action de grâce. Chers frères et sœurs, chers amis, nous ne devons pas avoir honte de mentionner les promesses de la parole de Dieu, voire la prophétie biblique pour ce temps dans nos prières et nos actions de grâce. Parfois, nous hésitons à le faire? Et quand hésitons-nous, lorsque nous réfléchissons avec notre réflexion? Dans le royaume de Dieu, aucun raisonnement n'est valable. Les choses spirituelles doivent être jugées spirituellement. Et si les promesses de la parole nous ont été révélées par l'Esprit de Dieu pour ce temps, nous ne devons pas avoir honte de l'exprimer. Nous ne devons pas craindre que les gens ne nous comprennent pas. Ceux qui sont destinés par Dieu à le comprendre, le comprendront peut-être justement lorsque nous l'exprimerons et pas seulement dans la prédication. Supposons qu'il ait été dit dans le sermon que Dieu enverrait un prophète à la fin des temps, qu'il a promis de tout restaurer, rétablir, et que Jésus doit rester dans la gloire jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et s'il avait été mentionné que tous les mystères de Dieu devaient trouver leur accomplissement selon Apocalypse 10, verset 7, et que Dieu avait ses messagers pour les sept âges de l'Église. Je vous le dis, si aucune mention ni référence n'était faite à cela dans les prières qui ont suivi, les noms initiés ne sauraient pas si nous y avons cru ou non, n'est-ce pas? Ils ne sauraient pas à quoi s'en tenir à ce moment-là et penseraient que oui, il semble que personne n'a fait attention à ce qui a été dit. Demandons à Dieu de nous donner des prières inspirées par l'Esprit qui n'omettent pas la parole révélée par l'Esprit, mais qui la mentionnent là où c'est approprié. Encore une prière qui contient de la prophétie biblique, c'est Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Du verset 29. Mais il lit déjà le verset 28. Il le prit aussi dans ses bras et loua Dieu en disant, « Seigneur, maintenant tu renvoies ton serviteur en paix, comme tu le lui as promis. » Verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut. » Verset 31, « Que tu as préparé devant les yeux de tous les peuples. » Verset 32, une lumière pour éclairer les nations et pour glorifier ton peuple Israël. Qu'est-ce que c'était? Nous pouvons lire dans le prophète Ésaïe que le Seigneur devait être une lumière pour les nations. Ici, un juif a prononcé que le salut de Dieu serait comme une illumination pour les nations, car cela avait déjà été prononcé à l'avance par la bouche du prophète Ésaïe, probablement au chapitre 49 d'Ésaïe. Qu'est-ce que le Nouveau Testament en fait? Il est l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Et nous aussi, nous sommes au milieu de l'accomplissement de la prophétie biblique. Que Dieu bénisse ces paroles dans ton cœur et dans le mien et qu'il nous révèle par son esprit de quoi il s'agit réellement. Permettez-moi de vous le dire. Autrefois, la parole de Dieu s'est accomplie. Qui l'a vu? Qui l'a entendu? Qui l'a cru? Le prophète Ésaïe déjà disait, qui a cru à notre prédication? Ceux qui ont cru ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à louer Dieu et à proclamer ce qu'il avait promis. Que s'est-il passé à la Pentecôte? Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à proclamer les grandes œuvres de Dieu dans d'autres langues. Que Dieu nous aide dans cette tâche. Passons maintenant à la partie concernant le souper. Permettez-moi de lire très brièvement quelques passages des Écritures. Le premier est tiré de Genèse. Genèse, chapitre 14. Je voudrais être très bref et je vous demande donc d'être pleinement attentif. Genèse 14. Abraham est revenu ici de la défaite des rois qui avaient amené Lot, son neveu, et il a remporté la victoire sur eux. Après les avoir vaincus, le Seigneur vint à sa rencontre. Je le lis dans Genèse 14, du verset 18. Genèse 14, verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit sortir de la ville du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Verset 19. Et il le bénit alors en disant, « Béni sois-tu, Abraham, du Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. » Verset 20. Et loué soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Si l'on veut savoir exactement qui est, qui était et sera Melchizedek, il suffit de lire Hébreux 7. Il y est dit qui il est. Roi de justice, roi de paix, sans père, sans mère, sans commencement, ni fin. Il n'y a qu'un seul qui n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, qui demeure éternellement. C'est le Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les rois. Alléluia. Ici, il est venu en tant que sacrificateur. Il s'agissait en effet du souper. Ah, si nous pouvions saisir que le Seigneur devait toujours se manifester en fonction de ce qui était nécessaire à ce moment-là. J'en viens maintenant directement à Exode, chapitre 14. Exode, ou peut-être seulement le chapitre 12. Exode, chapitre 12, la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. C'est là que la Pâque a été instituée. Et nous savons que le Seigneur Jésus a pris le pain pendant le repas de la Pâque et a institué le souper. C'est ici que, pour la première fois, apparaît dans la Bible le mot « assemblée ». Il se trouve dans Exode chapitre 12, verset 3. Donnez à toute l'assemblée d'Israël les instructions suivantes. Le dixième jour de ce mois, prenez chacun un agneau pour chaque famille. Je ne veux pas lire toute l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé. L'agneau a été égorgé. Le sang a été mis sur les montants de la porte. Et la viande a été mangée. Le Seigneur dit, « Quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Tous les premiers-nés des Égyptiens furent tués, mais les premiers-nés d'Israël restèrent en vie parce que le sang de l'agneau avait été l'expiation avait été versée. Et il en va de même pour nous dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il a versé son sang pour le troupeau des premiers-nés. Il est écrit qu'il, le troupeau des prémices, il est écrit qu'il versa son sang pour la multitude, en rémission des péchés, pour une multitude. Et cette multitude forme son corps. Elle est l'Église du Dieu vivant. Des gens qui ont revendiqué le sang de l'expiation, le sang de l'agneau, comme leur rédemption. Aucun des Israélites ne pouvait ajouter quoi que ce soit à sa rédemption. Mais le sang de l'agneau était leur protection, leur préservation. C'était le prix payé pour leur âme. Et je dis aujourd'hui, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le prix d'achat de ton âme et de la mienne. C'est dans son sang que tu es racheté et que je suis racheté. Le Seigneur dit, quand je verrai le sang, je passerai sur vous en vous épargnant. Aujourd'hui, nous voulons tous nous placer sous ce sang rédempteur, protecteur et purificateur de l'agneau, afin que le Seigneur nous voit à travers son sang. Et quand il nous voit par son sang, il nous voit purifiés, sanctifiés, lavés, rachetés, totalement libérés. Et l'ange étrangleur doit passer. Vous pouvez imaginer les cris dans la maison des Égyptiens, mais dans la maison des Israélites, il n'y avait pas de cri. Il y avait la sécurité, la sûreté. Le sang de l'agneau avait coulé et avait été peint sur les montants de la porte. Quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Je passerai devant vous. C'était dans l'Ancien Testament. C'était le sang d'un agneau. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le sang précieux, cher et saint de l'agneau de Dieu. Le sang précieux à grand prix et saint de l'agneau de Dieu. Quand le Seigneur voit ce sang sur ta vie et sur la mienne, alors l'ange étrangleur doit s'arrêter. Il doit continuer. Vous n'avez rien à craindre. Non, ils étaient en sécurité. Ils firent ce que Dieu avait demandé et ordonné. Et vous savez qu'il s'agissait principalement des premiers-nés. En Exode 13, nous lisons au verset 2. « Sanctifie-moi tout premier-né. » C'est une parole glorieuse. Christ est le premier-né parmi de nombreux frères. « Consacre-moi, sanctifie-moi tout ce qui est premier-né. » Nous sommes les premiers-nés parce qu'il est le premier-né, parce qu'il a été manifesté dans la chair en tant que fils de Dieu. Nous avons reçu la possibilité de devenir des fils et des filles de Dieu. Sanctifie-moi tout premier-né. Ensuite, cette Pâque a été instituée et Dieu a donné l'ordre de ne pas manger de pain levé pendant 7 jours. Exode 13, verset 6. Exode 13, verset 6. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Verset 7. Pendant ces 7 jours, on mangera des pains sans levain. Il ne se trouvera rien de levé ni de pâte acidifiée dans tout ton territoire. Donc, de levain. Je ne peux pas entrer dans le détail de tout cela maintenant, mais frère Branham l'a magnifiquement expliqué. Ces 7 jours parlent des 7 âges de l'Église. Et il ne faut pas y apporter de la pâte acidifiée. Paul écrit en effet aux Corinthiens, ne savez-vous pas qu'un peu de pâte acidifiée suffit à faire lever toute la pâte? Qui d'entre vous sait ce que c'est que le levain, la pâte acidifiée? Je le sais très bien. Ma mère savait très bien faire du pain et elle gardait toujours un tout petit reste de pâte. Et jusqu'à la prochaine cuisson, cette belle pâte était acide et elle était alors mélangée à l'autre pâte et le pain levait bien et pouvait être cuit. Le levain, la pâte acidifiée, n'est donc pas un élément étranger. Le levain, la pâte acidifiée, est pris dans la même pâte qui était auparavant cuite pour faire du pain. Mais voici le secret. Comme pour la manne, Dieu donnait chaque jour une nouvelle manne, et le peuple d'Israël ne devait rien prendre pour le lendemain, sinon il se gâtait. Et nous, à chaque âge, Dieu a fait quelque chose de nouveau, et il ne fallait rien prendre pour le lendemain. Et je dois dire que lorsque nous parlions à Palerme parmi les frères dans une assemblée très particulière, dès le début et que cela allait un peu de l'un à l'autre, subitement ce frère servant s'est soudain levé et a dit, écoutez, il ne s'agit pas ici d'accepter ou de rejeter un enseignement. Il s'agit ici de comprendre que nous jetons dehors tout le vieux levain, toute la vieille pâte acidifiée. Et c'est une chose merveilleuse que Dieu a faite là. J'aimerais en fait, si Dieu le veut, y revenir encore une fois. En raison de la brièveté du temps, nous devons lire dans 1 Corinthiens peut-être ou juste avant les paroles d'institution du souper dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 afin que notre Seigneur bien-aimé puisse également s'exprimer. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant le repas, Jésus prit le pain, prononça la louange à Dieu, rompit le pain et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il, verset 27, puis il prit une coupe, rendit grâce et la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang, le verset 28, de la nouvelle alliance qui est répandue pour la multitude en rémission des péchés. Donc, pendant le repas de la Pâque, comme nous l'avons lu, notre Seigneur a pris le pain, a institué le souper. Il a en effet laissé son corps être frappé et martyrisé afin que nous puissions être guéris. Il a versé son sang pour que nous soyons rachetés. Les deux font partie de la rédemption totale, le salut et la guérison. Oui, jusqu'à la résurrection et le changement, jusqu'à ce que nous soyons transformés à son image. Il prit le pain, rendit grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps pour vous. » C'est un pain, mais nous nous souvenons du corps de notre Seigneur. C'est du vin, mais nous nous souvenons du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix à Golgotha pour le pardon de nos péchés. Je demande qu'une distinction claire soit faite. Le souper n'est pas destiné au pardon des péchés. Le souper est un repas en mémoire du fait que nos péchés ont été pardonnés sur la croix à Golgotha. Parce que nous croyons que nos péchés ont été pardonné par le sang versé, nous célébrons le souper et annonçons ainsi la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pour cette raison que nous le faisons. Lisons encore rapidement les paroles de l'Épître aux Corinthiens, d'abord dans le chapitre 10, puis dans le chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 15. Peut-être d'abord du verset 16, peut-être tout de suite du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain. Malgré notre multiplicité, nous ne formons qu'un seul corps, car nous nous partageons tous un seul pain. Jusqu'ici, cette parole de Dieu, chère âme, peut-être es-tu nouvelle dans le royaume de Dieu. Peut-être ces choses ne te sont-elles pas si familières. Si quelqu'un devait être dans le doute, alors, s'il vous plaît, laissez passer le repas sur vous cette fois-ci. Ce n'est que lorsque vous aurez dans votre cœur la certitude de la foi que vous êtes devenu enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, que vous saurez aussi sûrement que le soleil brille dans le ciel. Moi, pécheur, j'ai reçu le pardon. Que la certitude sera dans votre cœur par l'Esprit de Dieu, selon la parole de l'Écriture. Son Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu dois encore demander à un frère, à un ami, à une connaissance, c'est que la certitude divine n'est pas encore en toi. Si tu ne dois plus demander à personne, si tu n'as plus de doute, mais que tu portes dans ton cœur la certitude, je suis un enfant de Dieu. J'ai fait l'expérience de la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a accepté comme sa propriété. Cela peut aussi se produire maintenant. Dans ces moments-là, si ce n'est que moi, fermer les yeux et ouvrir les yeux du cœur et voir en esprit Jésus sur la croix du calvaire à Golgotha et dire, Seigneur, tu as été crucifié pour moi. Tu as versé ton sang pour mes fautes et mes péchés. Tu m'as racheté. Je viens à toi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Fais-moi miséricorde et accepte-moi. Ce serait quelque chose de merveilleux si Dieu pouvait l'offrir aux individus dès maintenant. Je lis maintenant pour terminer les paroles d'institution de 1 Corinthiens au chapitre 11 du verset 23. Ici, Paul parle et dit, car pour ma part, je l'ai reçu du Seigneur comme je vous l'ai aussi transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain. Le verset 24 de 1 Corinthiens 11. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, celui donc qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur d'une manière indigne, péchera contre le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ensuite seulement ils mangent du pain et boivent de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit s'attire par son manger et son boire un jugement de condamnation s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Verset 30. C'est pourquoi aussi il y a parmi vous un si grand nombre de faibles et de malades, et beaucoup se sont déjà endormis. Verset 31. Mais si nous entrions en jugement avec nous-mêmes, nous ne recevrions pas de jugement de condamnation. Peut-être jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Il nous est demandé ici de nous examiner nous-mêmes, non pas le prochain, mais nous-mêmes. Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans le cœur d'un frère et d'une sœur, mais nous savons que nous aimerions que Dieu puisse agir en nous de manière puissante. Et si nous prenons aujourd'hui le repas du Seigneur, nous voulons penser à sa mort, et pas seulement à sa mort. Après tout, par sa mort, notre vie est liée. Notre vie est liée à sa mort. S'il n'était pas mort dans la chair, nous n'aurions jamais pu obtenir la vie spirituelle, recevoir la vie spirituelle. Il est mort pour que nous puissions vivre. Il a pris ta place et la mienne. C'est écrit ici, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous confessons Jésus-Christ, nous nous confessons à Jésus-Christ le crucifié, à notre Sauveur qui a accompli notre rédemption sur la croix à Golgotha. Que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de nous éprouver, de nous examiner, puis comme il est écrit, d'en manger et d'en boire. Je le répète, pas pour le pardon des péchés, c'est comme un repas en mémoire du fait que nos péchés ont été expiés et pardonnés. Que Dieu nous accorde par grâce la bonne compréhension à ce sujet. Amen.